Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce vendredi, notre invité de la matinale, invité politique, est Gauthier Langlois. Il est co-animateur des Jeunes Insoumis de Rennes et il est venu en train spécialement pour être avec nous en ce vendredi matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
J'imagine que dans cette période un petit peu surprenante que l'on vit d'un point de vue politique, en tout cas historique, on va y revenir dans un instant. J'allais presque dire, les nuits sont courtes et les réunions nombreuses.
Très longues, elles finissent souvent très tard et même on a même des réunions qui commencent à minuit. Donc on est sur une période politique qui est exceptionnelle. Comme je disais tout à l'heure, c'est à mes yeux, et c'est même visiblement la plus grosse crise de la 5e politique, de la 5e République. Et donc dans cette situation exceptionnelle, on a une recomposition totale de l'espace politique et il y aura un après 7 juillet.
Alors justement, on va en parler de cet après 7 juillet. Seulement, je voulais avoir un petit peu votre regard sur les derniers événements, j'allais presque dire de ces dernières heures. Nous, les journalistes, on suit cela finalement comme allez, presque une série Netflix. Hein. On pourrait le voir comme ça. En tout cas, il y a eu des choses assez surprenantes. La droite qui explose ou qui impose,
qui s'effondre.
La gauche, qui est le bon élève finalement. On avait dit beaucoup de choses en disant la gauche aurait du mal à discuter. Alors les forces de gauche, hein, plus largement, on va en dire un mot aussi, arrivent à s'entendre avec un nouveau Front Populaire. Hein, c'est le nom qui a été donné à ce groupement, en tout cas à cette alliance des forces de gauche. Et puis on a aussi l'extrême droite qui tangue avec Marion Maréchal qui a été exclue du mouvement d'Éric Zemmour Reconquête, qui n'a pas souhaité rejoindre le Rassemblement National. Voilà, en gros, on est dans une crise politique assez importante et sans doute effectivement la plus marquante de cette 5e République. En tout cas, c'est inédit. La dissolution, vous y attendiez sincèrement ?
Du tout. Donc moi, j'étais justement à la soirée électorale à Paris en plus, et donc j'étais avec tous les élus, tout le national de la France insoumise, et d'un coup, on a cette annonce déjà 2 heures avant que Emmanuel Macron va prendre la parole après les résultats, mais à ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se faire. Justement, même moi, je rigole justement avec le député Louis Boyard et je lui dis « Oh, j'en connais un qui va perdre son siège ». Puis il répond « Oh non, c'est pas possible, jamais il oserait ça, ça serait suicidaire parce qu'on sait que le Rassemblement National va faire un score très élevé et faire ça, c'est leur donner le pouvoir. Mmh. » Et c'est de dire les urnes ont tranché et donc le pouvoir de le Rassemblement National. Donc nous, on se dit à ce moment-là, c'est incendiaire comme comportement et que c'est pas possible que ça ait lieu. Et donc 2 heures après, les résultats tombent. Les résultats, pour nous, sont bons. La gauche arrive à maintenir un très bon résultat, malgré une campagne qui a été très difficile.
Voilà, et meilleur que ce qu'annonçaient finalement les instituts de sondage.
Justement, très souvent les sondages se trompent, et encore une fois ils se sont trompés pour nous. Mathilde Panot le dit justement, au moment où les résultats tombent, elle dit attention, on va remonter. Et à ce moment-là, on sonde à 7 sièges, et en fait à la fin on est sondé à 9 sièges. Et donc on a la camarade Emma Fourreau qui part au Parlement européen, qui est ancienne co-animatrice des Jeunes Insoumis de Rennes. Et donc à ce moment-là, il y a Emmanuel Macron qui annonce la dissolution de l'Assemblée Nationale. Panique à bord. Mais très vite, par exemple, moi je me rappelle de ça, c'est que j'envoie tout de suite un message à un camarade socialiste et je lui envoie unité, et il me répond dans la minute unité point. Et donc à ce moment-là, on sait que, de toute façon c'est simple, c'est la République ou les fascistes, et donc nous, tout de suite on s'organise. À Rennes, donc il y a des soirées électorales différentes, et donc tout de suite, toutes les soirées électorales de gauche ont le réflexe de se réunir. Donc toutes les forces de gauche à Rennes se réunissent. À ce moment-là, à Paris, c'est la même chose. Il y a un grand rassemblement qui, du coup, au niveau de la soirée électorale, automatiquement, en fait, donc t'as Jean-Luc Mélenchon qui arrive en urgence et qui prend la parole devant, du coup, une foule. On est à peu près 3000 à ce moment-là, place Stalingrad. Et on dit, donc il explique que c'est une recomposition politique. Il faut être à la hauteur, il faut l'unité. L'unité sur des bases sociales, parce qu'en fait, comment on règle le problème de l'extrême droite, c'est en donnant des réponses concrètes, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils attendent, c'est des réponses concrètes, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du pouvoir d'achat. Et donc, comment on fait ça? C'est ça ce qu'il explique à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon, c'est comment on règle ce problème? Et ben, c'est en unité populaire. Et donc, à ce moment-là, on part tous en rassemblement, direction place de la République, dans les rues de Paris. À ce moment-là, aucun policier, c'est génial comme moment, et on arrive tous, donc place de la République, il y a des écologistes, des socialistes, même place publique, des insoumis par centaines et centaines, et à ce moment-là, il est prononcé des discours par Sébastien Delogu, qui dit unité, 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 et donc après, on a tout ce qui s'est fait les jours d'après.
Alors justement, sur les jours d'après, il y avait eu des mots très durs entre les socialistes en particulier et la France insoumise sur des divergences. On pense à la Palestine, on pense à des divergences aussi de fond hein, sur les programmes. Ça a été facile de discuter malgré cette unité, on l'a compris, qui s'est mise en place dans l'urgence et face au péril de la République, on va en dire un mot aussi. Ça a été facile de pouvoir se retrouver en face de camarades, je me permets d'employer le terme, qui parfois avaient quand même bien malmené les autres.
On est des camarades avant tout. Par exemple, nous, AREN, Organisation de Jeunesse, on n'a jamais dérogé à ça. On a toujours eu une coordination de la NUPES. Elle n'est jamais morte, AREN. On a moins fait de choses tous ensemble. Mais on a continué à se coordonner. Donc pour nous, ça n'a pas été un problème de... En fait, on est dans les mêmes luttes. À partir du moment où on fait les mêmes manifestations ensemble et qu'on a globalement les mêmes idées, on a un débat d'idées qui se met en place, mais en réalité, on est des camarades. Avant tout, on est là pour l'écologie, on est là pour le social. Et donc, ça a été très facile pour nous, en réalité. Après, du coup, il y a une grande question qui se pose, c'est la question programmatique. C'est comment on règle le problème, parce que nous, à la France Insoumise, ce qu'on porte, c'est que la question de l'extrême droite, elle se répond en, justement, proposant des grandes avancées sociales. Et pour proposer ces grandes avancées sociales, il faut des mesures qui sont claires, des mesures qui sont collectivistes, des mesures qui visent à justement changer la vie des gens et changer la vie des gens positivement et ne surtout pas tomber dans la haine des autres et dans le racisme et dans la xénophobie. Et donc c'est pour ça que donc, nous, à la France Insoumise, on a porté et on a tout de suite comme réaction dit oui l'unité mais avec un programme. On avait un programme qui était déjà prêt, celui de la NUPES. On le rediscute parce qu'il y a plein de choses à rediscuter. C'est normal, c'est en cours. Donc actuellement, donc là je parle jeudi, mais peut-être que demain matin on aura enfin le programme partagé du nouveau Front Populaire. Et donc là, justement, on attend de voir sur quoi on va se baser. Mais on sait que, par exemple, on ne dérogera pas sur l'abrogation de la réforme des retraites, l'abrogation de l'ignoble loi immigration, l'abrogation de plein d'autres décrets horribles. Justement, à ce moment-là, c'est là où ce qu'on espère, c'est que le peuple, justement, le peuple prenne en main cet instant politique, cet instant du Front Populaire, pour déjà donner une large majorité à la gauche et à ce moment-là, obtenir des gains sociaux qui permettront de changer la vie des gens. Et en même temps, il faut en demander plus. Il faut qu'à ce moment-là, les gens, ils en demandent plus. Ils disent que nous, ce qu'on veut, c'est la retraite à 60 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est l'augmentation des salaires. Et ça, justement, ça sera possible avec le Front Populaire, alors que ça sera impossible avec le Rassemblement National.
Alors déjà, pendant la campagne des européennes, il y avait une forme de Front Populaire qui ne disait pas son nom à ce moment-là contre le Rassemblement National. Là, il y a eu un message des Français, un message assez clair. Ils veulent, ce que vous disiez, un renouveau politique, des réformes, évidemment, significatives. On a compris que le programme qui va sortir là dans les heures qui viennent apportera des réponses. Est-ce que ça va être suffisant? C'est surtout la question. Est-ce que ça va être suffisant pour, j'allais presque dire, retourner l'opinion politique, l'opinion publique, pardon, l'opinion publique, on parle beaucoup de politique ces jours derniers, l'opinion publique pour aller vers la gauche, pour croire à nouveau finalement à la gauche?
Moi j'y crois, parce que déjà on est unis. On est efficace, parce qu'on quand même on a réussi à tout régler ces questions-là en 24 heures, parce que c'était le coup de force d'Emmanuel Macron. L'objectif, c'était de compter sur le fait que la gauche soit désunie, et à ce moment-là, donner le pouvoir à l'Assemblée nationale. C'est raté, la gauche, elle est unie. Là, on est en train de discuter du programme, on a quasiment fini, et maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre en ordre de marche. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que c'est clair, dans les sondages, même si les sondages, ça vaut ce que ça vaut, on est en train d'exploser. Mmh. On est passé quand même de sondés de 21% à 23% en 12 heures, et là, maintenant, on est à 28%. Donc là, le Rassemblement National est à 31. Donc on a une vraie possibilité de changer la vie des gens. Et en plus, ce qui est incroyable dans cette situation, c'est que la Macronie est en train de se casser la gueule. Et donc on est dans une situation où, par exemple, dans des sondages, un sondage qui a été commandé par le Figaro, qui ne sont pas des grands camarades, le Figaro, annonce qu'il n'y aurait que seulement 41 circonscriptions où la Macronie serait au second tour. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où c'est simple, c'est le Front Populaire ou le Rassemblement National. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est simple, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez d'une politique raciste, d'une politique qui sera Macron? Parce que vous oubliez que dans l'extrême droite, il y a la droite. En plus, c'est pas pour rien que Ciotti, qui porte la retraite à 67 ans, justement, Ciotti va dire qu'il veut rejoindre le Rassemblement National. C'est qu'on est dans une situation où est-ce que vous voulez du coup du Macron version raciste en plus, ou est-ce que vous voulez du Front Populaire avec augmentation des salaires, retraite à 60 ans et augmentation du pouvoir d'achat et tout plein de questions écologiques.
Est-ce que finalement la gauche, lorsqu'elle est unie, s'empare des sujets qu'elle avait peut-être un peu délaissés, en tout cas pour une partie de la gauche, on peut penser aux socialistes à une certaine époque, avait délaissé, c'est-à-dire la chose sociale.
Mais exactement, et justement c'est l'essence du Front Populaire. Le Front Populaire en 36, on a un gouvernement qui n'a pas vocation à avoir des grandes avancées sociales. Et c'est justement les gens qui se mettent en grève et qui disent maintenant qu'on a un gouvernement de gauche, parce qu'on vous a suivi et parce qu'on a voulu empêcher les croix de feu de prendre le pouvoir, et ben maintenant c'est à vous de nous donner des choses, parce que sinon on tombera dans le rouge brun. Et donc c'est là l'enjeu, c'est que on doit absolument tomber dans des revendications populaires. On doit s'organiser, rejoindre des comités de quartier, des comités de ville, pour dire nous ce qu'on veut avec le Front Populaire, c'est ça, avoir des revendications précises et claires. Et c'est de dire que moi par exemple je porterai le fait que le SMIC monte à 1 600 euros, voire plus. On est dans une situation où socialement on doit demander des choses, parce que justement on est dans une période politique où on peut prendre le pouvoir, on peut prendre la main, et il y a un vrai espoir qui naît.
Alors, on voit une France fracturée aujourd'hui pour plein de raisons. Les raisons économiques, avec les difficultés autour du pouvoir d'achat, entre autres. Une France aussi qui s'interroge sur l'immigration. C'est ce qui a fait monter beaucoup le Rassemblement national. Est-ce que là aussi, il va falloir entendre cette France qui pose des questions sur les réfugiés, sur les migrants, est-ce que là aussi, il va falloir peut-être, j'allais dire, avoir un programme peut-être plus consensuel?
Mais pour moi, en fait, le consensus, il doit aller dans l'humanité. C'est déjà, on est face à des humains, on n'est pas face à des bestioles, et on se dit comment on va faire pour gérer la grippe aviaire. Non, dans la situation, on est face à des humains, on a besoin d'avoir de l'humanité, et donc à ce moment-là, déjà, il faut se rencontrer. C'est tout bête, mais il ne faut surtout pas ghettoiser les gens. Il faut aller rencontrer ces personnes, il faut les accueillir, il faut discuter avec, il faut justement leur montrer en quoi les valeurs républicaines sont des valeurs incroyables qui permettent justement l'intégration des gens. Il faut leur permettre d'avoir un travail, parce qu'actuellement en France, il est quasiment impossible quand on est réfugié d'avoir un travail. Rien que d'avoir le statut de réfugié est quasiment impossible. C'est fait pour que pendant 6 semaines, on doive pointer tous les jours à la préfecture qui est délocalisée dans Rennes. Qui est délocalisé dans la banlieue rennaise. C'est quasiment impossible d'avoir un contrat de travail actuellement. Et en plus, si on veut pouvoir avoir le statut de réfugié, il faut avoir un patron qui dise qu'il va nous embaucher. Mais bon, va trouver un patron qui dit qu'il va t'embaucher, parce que du coup, faut que la préfecture en même temps elle accepte, et faut que la personne aille pointer tous les jours. C'est quasiment impossible. Donc la question en fait à ce moment-là, c'est il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut se découvrir, et justement voir ce qu'on peut apporter à l'un et l'autre, et montrer que les valeurs républicaines, que justement tout ça, c'est quelque chose auquel on peut adhérer tous ensemble et avoir un monde meilleur.
Alors avec une crainte, une peur, on a des problèmes de sécurité en France, il ne faut pas les négliger, on a vu récemment plusieurs faits divers, alors il ne s'agit pas ici de dérouler ces faits divers, mais d'une façon factuelle, on a souvent des réfugiés qui ont pu commettre des actes délictueux sur le sol français, ça aussi a amené une peur dans l'opinion publique. Comment y répondre à cette peur?
Déjà, à mes yeux, c'est une peur qui est créée. Est créé par des médias qui ont besoin que cette peur existe. Parce que c'est très facile de dire, regardez, cette personne que tu ne connais pas commet des crimes. Ça a toujours été, et historiquement, on voit que dans l'histoire, ça a toujours eu lieu. Et donc, la question, c'est comment on y répond à ça. Et moi, justement, en fait, c'est la réponse, elle revient, c'est l'humanisme. Si on donne un travail à quelqu'un, on lui permet d'avoir une maison, d'être en légalité, de ne pas être poursuivi par des policiers, de justement être dans une légalité, mais forcément, on préfère largement la légalité à l'illégalité.
Ça permet aussi à la personne, pardonnez-moi, je vous interromps, mais ça permet aussi à la personne de ne pas tomber dans les trafics de drogue ou d'être attrapé par les mafias.
Exactement. Par exemple, j'espère que le Front Populaire portera la légalisation du cannabis, et la légalisation du cannabis permettra déjà de poser un vrai problème de santé publique en France, parce qu'actuellement on est le pays d'Europe qui consomme le plus de cannabis, et en même temps on est le pays d'Europe qui sanctionne le plus l'utilisation du cannabis, et ça permettrait en plus de assécher les réseaux mafieux qui du coup puisent tout là-dedans. C'est qu'en fait on va dire à un gamin issu de l'immigration, on va lui dire bah viens vendre de la drogue, viens gagner énormément d'argent très rapidement, et ne va surtout pas faire des études, et ne surtout pas derrière avoir un travail. Et donc ça, justement, légaliser le cannabis, ça permet d'assécher les réseaux mafieux, et donc à ce moment-là, remettre au centre la question humaniste.
Voilà, éviter peut-être que les gamins, comme vous dites, hein, qui ont parfois 14 ans, se fassent tirer dessus par des gangs qui essaient de se partager des territoires. Il y a aussi, là on va arriver sur le pouvoir d'achat, il y a aussi les questions de l'énergie, les questions de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger. Elles sont centrales, ces questions-là, aujourd'hui, de pouvoir parfois changer de véhicule. On entend beaucoup parler des véhicules électriques, mais c'est cher, un véhicule électrique. Là aussi, il y a des réponses à apporter.
Justement, nous par exemple, sur cette campagne européenne, on a porté le fait de quitter le marché européen. Parce qu'en France, on était du coup justement, on a des centrales nucléaires, donc tant qu'à faire, on en profite. Et on avait un mix énergétique qui nous permettait d'avoir une électricité la moins chère d'Europe. Mais L'Union européenne a toujours détesté l'idée qu'on ait une électricité aussi peu chère.
Et on aussi, a une forme coup, de souveraineté aussi.
Exactement, on avait une souveraineté sur l'électricité. Et donc, nous, à la France insoumise, on a porté pendant cette campagne européenne, et j'espère qu'on arrivera à le maintenir au sein de ce Front populaire, c'est le fait de sortir du marché européen de l'électricité. On ne peut pas se permettre de dire qu'on doit être au même marché européen, donc le marché des centrales au charbon allemandes, qui représentent du coup 1000 euros quasiment le kilowattheure, alors que nous, en France, c'est 500 à la production. On peut pas se permettre du coup de dire on va doubler le prix des factures d'énergie parce que on veut rester dans ce marché européen qui désavantage énormément la France.
Avec un dogme, on le sent comme ça, puisque des pays l'ont fait. On pense au Portugal et à l'Espagne qui, d'une certaine façon, ont enlevé l'indexation de leur prix d'électricité sur le prix du gaz, par exemple.
Exactement, exactement. Et c'est justement ça qu'on veut pouvoir amener dans le débat public, c'est de dire que les factures d'électricité explosent et on peut trouver une solution. Et cette solution, elle est toute trouvée. C'est ce qu'on propose, c'est sortir du marché européen de l'énergie. Mais tout en ayant un aspect écologique que, par exemple, le Rassemblement national n'apporte pas. C'est que tout le temps faire du tout nucléaire. Le nucléaire est une énergie certes décarbonée, mais le jour où il y a une centrale nucléaire qui pète à Cherbourg, il faut se dire que toute la Normandie elle est foutue. Et ça on peut pas se le permettre.
Voire même la Bretagne.
Voire même la Bretagne. Bretagne quand même qui n'a jamais eu de centrale nucléaire parce que les Bretons ont toujours lutté jusqu'au bout contre l'énergie nucléaire. Et donc c'est pour ça qu'il faut justement déjà réfléchir à une nouvelle consommation. C'est se dire qu'il faut moins consommer. Et je demande pas au consommateur à lui-même de penser à bien éteindre son ampoule, même s'il faut le faire. C'est aussi, il faut que le mix énergétique soit mieux réparti. Par exemple, qu'on n'ait pas des centrales, je pense à des ZA industrielles, qui consomment une énergie folle pour derrière produire des choses qui ne servent à rien. Il faut repenser sa consommation et sa consommation globale. C'est l'État justement qui doit permettre le fait de repenser et de collectiviser la ressource de l'énergie, et à ce moment-là aussi du coup transmettre sur des énergies qui sont des énergies décarbonées et écologiques. Je pense aux usines à marée motrice, on a la plus belle usine à marée motrice au monde.
L'usine de la France.
Il y en a que trois dans le monde, deux en Chine et une en France. Donc justement on a des moyens d'avoir de l'énergie propre et de l'énergie renouvelable, et justement donc c'est pour ça qu'on doit mélanger le fait de avoir de l'énergie propre et renouvelable, donc écologique, et un mix énergétique collectivisé et réparti.
Alors, avec aussi peut-être une plus grande intervention de l'État. On dit souvent, LFI, si demain ils arrivent au pouvoir, voilà, ils vont être très interventionnistes, l'État va être partout, voilà. Ceci dit, du temps du général de Gaulle, pour prendre une référence historique, il y avait des plans, l'État intervenait beaucoup. C'est un petit peu de remettre au goût du jour cet interventionnisme de l'État dans certains domaines stratégiques.
Exactement. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'illibéralisme, ça ne marche pas. Le libéralisme, quand on voit ce que fait Emmanuel Macron, de dire que regardez, l'État ne met pas ses mains là-dedans, la main invisible, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, on a la casse de nos résultats sociaux, mais en même temps, on n'obtient rien. Enfin, je sais pas si vous avez rendu, depuis 2017, vous avez senti quelque chose dans votre porte-monnaie, à part avoir perdu de l'argent, pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça que nous, à gauche, ce qu'on propose, c'est justement ce fait d'avoir un interventionnisme d'État, qui en plus, par exemple, je vous prends un exemple soi-même sur ce qu'a fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a donné des milliards et des milliards et des milliards aux grandes entreprises, tout en coupant les budgets, par exemple, des services publics. Alors que le service public, eh ben justement, c'est le truc le plus compétitif. Parce qu'en fait, on va avoir accès à des services qui sont des services extrêmement chers, gratuitement, parce qu'on aura réussi à collectiviser l'argent pour que ça serve à tout le monde.
Et donc, c'est pour ça qu'on... aussi des implantations de services publics dans les zones rurales. Aujourd'hui, on le voit, là encore, avec le vote qui a massivement profité au Rassemblement National. Souvent, ce qu'on entend dans les campagnes, c'est « Ah oui, mais on n'a plus de postes, on n'a plus de lignes de chemin de fer, on n'a plus de gare, notre coin est en train de mourir. »
Ben exactement. Moi, j'ai un exemple qui est concret, c'est les maisons de services de médecins. Par exemple, donc nous, à la France Insoumise, avec Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale, on a porté une proposition. C'était une proposition que les médecins soient obligés de réaliser un service dans les zones rurales où il y a besoin de médecins. Parce qu'actuellement, on est dans des zones, par exemple, je pense à d'où je viens, dans le Poitou, donc à Moncontour, il y a eu un gros souci.
Moncontour du Poitou, je le dis, Moncontour, parce qu'on a Moncontour, oui. Juste à côté.
Il y a deux Moncontours en France. Moncontour dans la Vienne, ils ont eu un gros... dans les Deux-Sèvres. Dans la Vienne, je dis parce que c'est la frontière. Ils ont eu un gros souci avec la maison médicale où ils ont eu un grand mal à trouver des médecins. Parce que aucun médecin ne voulait s'installer. Nous, justement, on veut, par un interventionnisme d'État, dire aux médecins, vous devez vous installer pendant 5 ans, c'est un service rendu à la nation, vous devez vous installer pendant 5 ans dans les ruralités. Et le Rassemblement National a voté contre. Le Rassemblement National a voté donc contre le fait que vous ayez des médecins dans les campagnes. Et nous, par exemple, on vote aussi pour la réouverture des services publics, ce que le Rassemblement National ne porte pas. Le Rassemblement National ne porte pas le fait de rouvrir des postes dans chaque ville, dans chaque village. Donc eux, ce qui va être porté par la Macronie et soutenu par le Rassemblement National, c'est des maisons France Service qui permettent de réunir tout. Mais à la fin, c'est un tout et n'importe quoi. On a des automates qui nous permettent d'avoir une visite médicale. C'est n'importe quoi. Il faut avoir des vrais médecins. Il faut pour ça aussi arrêter le quorum. Il y a un quorum pour devenir médecin. Il faut qu'on forme des médecins. Il faut juste former des médecins. Il faut arrêter d'être sur une logique libérale qui est de dire qu'il faut X médecins pour gagner X argent. Il faut qu'on ait plein de médecins. Il faut qu'on ait comme à Cuba.
Oui, d'ailleurs, les médecins cubains qui sont très courtisés à Guingamp.
Exactement.
On peine à trouver des médecins.
Cinq médecins de Cuba qui sont envoyés actuellement,
voilà,
à Guingamp.
Justement. Voilà, pour pouvoir sauver la médecine de proximité. J'avais prévu de vous poser la question à la fin, Gauthier Langlois, mais puisqu'on parle des services publics, peut-être moins prégnant que les inquiétudes des Français, mais il y a quand même aussi l'information. On parle beaucoup des médias aujourd'hui. On les pointe un peu du doigt, d'ailleurs, dans la victoire du RN, en disant qu'ils ont beaucoup parlé du RN et ça leur a donné, ça a donné en tout cas au RN une forme de caisse de résonance. Si le RN arrive au pouvoir, il prévoit de privatiser Radio France. On parlait de fusion, maintenant on parle de privatisation. Là aussi, j'imagine, votre réponse, j'anticipe un peu, mais j'imagine que c'est quelque chose que vous refusez.
Ah non, on le refuse totalement. Parce que par exemple, ce qu'on voit, c'est que actuellement, on a des milliardaires, on a 9 milliardaires qui détiennent 95% des médias en France. Par exemple, je prends l'exemple de Bolloré, il détient CNews, il détient Europe 1. À partir du moment où il détient des telles chaînes d'information, comment c'est possible derrière d'avoir une critique médiatique? Parce que c'est ça la force qu'on a dans les médias. C'est que les médias peuvent critiquer un pouvoir en place et un pouvoir qui n'est pas encore en place. Et donc c'est la force des médias. Et donc ça, c'est justement des Bolloré qui est un porteur de l'extrême droite, lui-même le dit. Il est conservateur nationaliste, et il s'en revendique. Et donc justement, c'est nous, ce qu'on propose, c'est déjà de remettre en place le fait d'avoir des vrais services publics de médias, de permettre aux médias d'être pas sous pression, parce que même nous, on ne veut pas pouvoir nous-mêmes mettre de pression aux médias. Les médias doivent être libres et financés par entièrement par des régions. Je pense à Bretagne 5 qui du coup doit courir après les subventions de la région, ce qui est pas forcément toujours facile. Et donc nous, ce qu'on porte, c'est justement d'avoir des subventions qui sont totales à tous les médias libres, de manière à avoir une information libre. Et à ce moment-là, du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait on est dans une situation où par exemple Jordan Bardella a été cité 11 800 fois lors de la campagne européenne, alors que Manon Aubry, candidate pour la France Insoumise, a été elle citée que 4 500. Et on parle juste de citations donc dans des articles. Comment c'est possible du coup de jouer dans un jeu médiatique où en fait c'est un billard pour eux à 6 bandes et nous c'est à 18 bandes. C'est que en fait nous on doit réussir à faire entendre notre discours, donc en sachant que les médias, vu que c'est des médias qui sont des médias privés, vont ne pas respecter cette idée de temps de parole, et du coup amener une situation où on n'aura pas d'égalité dans les programmes et dans les explications des candidats.
Alors, je rassure les auditeurs, je dis souvent à cette antenne, on n'a pas de milliardaires qui nous financent, et la parole est libre pour toutes les formations politiques qui se succèdent au micro de la matinale avec la liberté de parole la plus totale, et évidemment. Il nous reste quelques minutes. Je voulais vous entendre à nouveau sur cette crise politique qui pourrait amener d'ailleurs une crise institutionnelle. On a entendu beaucoup de choses à cet égard. Et puis, il y a l'image aussi de la politique qui est renvoyée. On a vu Éric Ciotti se barricader chez lui.
Et Pécresse retrousser ses manches pour aller ouvrir les portes du Parti des Républicains.
Voilà. On en sourit, mais ça donne là encore aux Français une image assez piètre de la politique.
Très piètre, mais justement c'est là où je suis fier de la gauche, c'est que là on est unis, on est dans une situation où personne ne se tape dessus, on est justement dans une situation où on montre justement notre force, qu'on est capable de prendre le pouvoir, parce que c'est ça l'enjeu, c'est qu'en fait c'est simple, encore une fois, dans 17 jours la question qui se posera c'est les fascistes ou c'est la gauche, et c'est la transformation sociale, et c'est là la vraie question et la vraie essence de tout ça, et c'est là où je suis très fier de mon camp politique, c'est que mon camp politique est à la hauteur de la situation actuelle, c'est que là on s'est, en 24 heures on a réussi à dire unité, on a réussi à dire on aura un programme commun, on aura des candidats communs et on arrivera à porter un programme de manière à avoir un gouvernement et montrer qu'on est en capacité de gouverner la France et de faire des réels changements pour les Français et Françaises et donc justement avoir une situation écologique et sociale qui permettra aux Français et Françaises d'être heureux.
Voilà, heureux, c'est le mot qui est prononcé. En tout cas, les Français aspirent à être heureux et à être moins tracassés. Au lendemain du deuxième tour des élections législatives, le RN s'installe dans le paysage politique français, s'installe possiblement durablement, je mets bien les guillemets qui s'imposent, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que la République peut vaciller demain?
Ce qui est, je vais citer une citation de Léon Blum, qui du coup justement fait ça en 1936.
Le Front Populaire encore.
Exactement, le Front Populaire, qui dit « Quand la démocratie est malade, quand le fascisme vient à son chevet, c'est rarement pour prendre de ses nouvelles. » Et c'est justement là l'enjeu. C'est que Macron, il fait un pari incendiaire, c'est de dire « Je vais donner le pouvoir au Rassemblement National pour que dans 3 ans, je montre qu'ils ont fait n'importe quoi et que je reprenne le pouvoir. » Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est non. Parce qu'en fait, quand on donne le pouvoir aux fascistes, ils les rendent pas comme ça. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Mmh. On a quand même eu une tentative de coup d'État.
Le
Capitole qui est complètement saccagé et avec des policiers qui se font assassiner dans les couloirs du Capitole. C'est un traumatisme énorme pour les États-Unis. En même temps, après, on a la même situation au Brésil, où quand du coup, justement, le président de gauche, Lula, prend le pouvoir, et ben on a des gens qui vont envahir du coup l'Assemblée du Brésil. Et encore une fois, il y a 2 policiers qui vont être assassinés. Mmh. Et c'est justement horrible ce qui se passe et c'est pour ça qu'on doit être à la hauteur de la situation et ne surtout pas laisser passer l'extrême droite et leur laisser prendre le pouvoir. Parce que leur laisser prendre le pouvoir, c'est avoir un risque fou et de ne jamais retrouver les institutions françaises telles qu'elles le sont actuellement. Et c'est pour ça que justement nous on est à la hauteur et on montre justement via notre unité et on le voit un peu dans les sondages. Encore une fois, je le répète, 28% que de gens qui disent qu'ils vont voter pour nous, on est donc la deuxième force. Et donc en fait on a une situation où c'est nous ou le Rassemblement National.
Justement, la mobilisation, on la voit hein, dans les rues, on la voit aussi au niveau des syndicats, au niveau des associations et j'allais pas se dire de toute la vie publique et sociétale en France, mais est-ce que cette grande mobilisation suffira pour contrer le RN et puis pour contrer les idées aussi?
Exactement.
Parce que des idées ont pris place dans la société.
C'est le souci, et c'est moi là où justement j'ai un espoir, c'est que pendant ces campagnes européennes, il y a eu très peu de débats des idées, parce qu'en fait, le RN avait, ils avaient tapis rouge, ils allaient dans tous les médias, ils racontaient leurs discours xénophobes, populistes, mais populistes sans en fait répondre à la question sociale. Et du coup, ils ont jamais en fait cherché à répondre à la question. Et là, en fait, dans une situation où on a une vraie. Les gens sont choqués. Par exemple, à Rennes, donc le lendemain de la dissolution, on a un rassemblement qui va réunir quasiment 7000 personnes place de la mairie, avec un seul discours et un seul qui est clair. On a des syndicats, des associations féministes, des associations antiracistes qui vont faire une déclaration, c'est unité. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unité. Et même, du coup, après, le lendemain, on a les syndicats eux-mêmes, l'interorganisation syndicale de Rennes, qui va appeler à une grande manifestation, qui cette fois-ci va réunir quasiment 10 000 personnes. On a des cortèges qui sont gigantissimes, avec un seul mot d'ordre, unité. Et c'est ça qui est incroyable, quand on a tous les syndicats qui sont unis, tous les partis politiques qui sont unis, on a tout qui fait, qui montre que là, ce qu'on a, c'est une vraie chance de prendre le pouvoir, de prendre notre destinée en main et de montrer qu'on peut avoir des vrais changements sociaux et démocratiques en France, et cela sans le racisme.
Alors, un dernier mot. Je parlais d'Éric Ciotti tout à l'heure. On a vu quand même la droite exploser avec les LR ciottistes et les autres qui combattent aussi le Rassemblement National. Est-ce que demain, s'il y avait péril dans la demeure, vous pourriez tendre la main à la droite, qui ne partage évidemment pas vos idées, on l'aura compris, ou on pense aussi à Horizon, par exemple?
Gouvernement partagé, non. Parce que moi, ce que je considère, c'est que la droite ne répondra jamais aux questions sociales parce que c'est pas son objectif. L'objectif de la droite, c'est de ne pas porter les questions sociales. Alors que par contre, la gauche, c'est son objectif. Et donc, par contre, moi, je suis clair, c'est dans mon vote. Dans mon vote. Je félicite les Républicains qui ont dit non à Ciotti. Je félicite tout, par exemple, en Bretagne, on a tous les responsables des Républicains qui abondent dans le sens contre Ciotti en disant c'est n'importe quoi. Nous, ce qu'on est, c'est la droite républicaine. Les Républicains, ils sont républicains. Et il faut qu'il le reste, justement.
C'est l'héritage de De Gaulle,
exactement.
Finalement.
Et donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas tomber là-dedans.
Et c'est sur ça qu'on va terminer, parce que il nous manque un peu de temps, mais vous reviendrez. C'est promis, c'était votre première radio. Gauthier Langlois, co-animateur des Jeunes Insoumis de Rennes, et une première radio qui s'est parfaitement bien passée.
Merci beaucoup. Et juste, si j'ai un dernier message à donner aux auditeurs, c'est pensez bien que là, vous n'avez pas le choix, dans le sens où, même si nous, on propose un renouveau démocratique, nous, ce qu'on veut, c'est soit c'est le Rassemblement National, soit c'est nous, c'est tout.
Le message est passé. Je vous souhaite une très belle journée.
À vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.